Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son ministère, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous reprenons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc.
Dans un premier temps, nous allons écouter la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Ensuite, Jean-Marc s'entretiendra avec Alain afin d'en tirer les leçons les plus importantes.
Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là, au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? A-t-on le droit de sauver une vie ? Ou faut-il la laisser se détruire ?» Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme, « Étends la main. » Il la tendit et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus.
Merci Janine et bienvenue à Alain. Bonjour.
Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous.
Alors que nous reprenons notre étude de l'Évangile de Marc, avec cette lecture des premiers versets du chapitre 3, il serait bon de rappeler le contenu des deux premiers chapitres.
Oui Jean-Marc, je le pense aussi. Marc, l'auteur de cet évangile, nous présente Jésus comme l'envoyé de Dieu, destiné à accomplir les promesses données par les prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, Jésus annonce une bonne nouvelle. Dieu veut secourir son peuple et Jésus lui-même est bien le sauveur promis. Le travail de Marc est de démontrer la raison pour laquelle Jésus est le sauveur du monde. À travers son évangile, nous y découvrons Jésus guérissant des malades et chassant les mauvais esprits de ceux qui leur étaient assujettis. Toutefois, nous apprenons que le salut consiste surtout à recevoir le pardon de ses péchés et à en être purifié. Le salut consiste à vivre une amitié avec Dieu. Il consiste à ce que nous devenions disciples de Jésus-Christ. De plus, Marc nous dépeint les autorités et les partis religieux comme étant profondément irrités par la présence de Jésus et par son ministère. Le parti des pharisiens notamment se montrait particulièrement hostile.
Et le texte que nous avons lu aujourd'hui reflète ce conflit qui ira continuellement en s'aggravant.
Oui, nous apprenons que suite à la guérison de l'homme infirme, un jour de sabbat, les pharisiens commencent à élaborer des plans afin de trouver un moyen de se débarrasser de Jésus. La haine a rempli leur cœur. Ils aspirent à le voir mort. C'est dire à quel point Jésus les dérange, à quel point ces hommes le détestent.
Oui, et ce conflit va se poursuivre jusqu'au jour où Jésus effectivement sera crucifié. Cependant, arrêtons-nous un instant sur les versets lus aujourd'hui. Pourquoi les pharisiens s'en prenaient-ils à Jésus ?
Ils ont été choqués de voir Jésus guérir une personne handicapée un jour de sabbat.
Mais pourquoi guérir un jour de sabbat posait-il un problème aux pharisiens ?
Ces derniers croyaient fermement que pour être un homme de Dieu, un serviteur juste et pur, il ne fallait pas travailler le jour du sabbat. Or, pour eux, l'acte de guérison était assimilé à un travail. En fait, les pharisiens avaient rédigé toute une liste de règlements définissant ce qu'il ne fallait surtout pas faire un jour de sabbat. Liste tellement longue et lourde que le sabbat en était devenu un fardeau et non plus une joie. De plus, comme nous pouvons le constater, les pharisiens jugeaient sévèrement toute personne qui ne partageait pas leur point de vue. Voilà pourquoi ils s'en prenaient à Jésus. Le fait que Jésus attirait les foules et qu'il prenait de l'importance avait aussi de quoi attiser leur haine.
Ils éprouvaient donc de la jalousie.
C'est exact, Jean-Marc. Les pharisiens devaient se sentir menacés. Ils perdaient l'influence, l'emprise qu'ils avaient sur le peuple. Ce dernier préférait maintenant écouter Jésus.
Quelle était la position de Jésus concernant le sabbat ?
Le sabbat, rappelons-le, apparaît dans les 10 commandements. Dieu ordonna alors à son peuple de mettre de côté un jour dans la semaine durant lequel il devait s'abstenir de tout travail pour adorer Dieu et se nourrir de lui. Nous devons concevoir ce jour comme un cadeau de la part de Dieu destiné à nous faire du bien. Il ne devait nullement devenir un fardeau. C'est ainsi que Jésus le concevait. Jésus respectait le jour du sabbat, mais il déclare que Dieu a créé ce jour pour l'homme et non l'homme pour le jour du sabbat.
Que voulait-il dire par là ?
Dieu a donné le jour du sabbat aux hommes pour qu'ils en profitent et se ressourcent. Le sabbat est un jour qui devrait contribuer à notre bien et non à notre malheur. Les pharisiens, avec leur liste de règlements, avaient enlevé toute notion de joie et de bien-être liée au sabbat. À cause de leur position, ce jour était devenu un devoir lourd et pesant.
Mais comment Jésus a-t-il répondu à la question « Peut-on guérir les malades un jour de sabbat ?»
Jésus, par son acte de guérison, nous renvoie au message essentiel de la loi, celui d'aimer son prochain. À travers la guérison de cette personne infirme, Jésus prouve son amour envers les hommes. Jésus déclare aussi que tout zèle pour le sabbat ou tout autre acte de piété ne doivent pas nous rendre aveugles aux besoins de notre prochain, ni nous empêcher de lui faire du bien.
Pour conclure notre discussion, que devons-nous retenir de cet incident ?
De nos jours, les chrétiens considèrent le dimanche comme le jour du sabbat. Pour les juifs, il s'agissait du samedi. Nous devons comprendre l'importance de ce jour tout en évitant de devenir légalistes en l'assortissant, par exemple, d'une liste de règlements semblables à celle des pharisiens. Au contraire, nous devons encourager les uns et les autres à participer au culte et à profiter pleinement de ce jour sans qu'il ne devienne un fardeau lourd à porter. Ensuite, Jésus a posé la question : est-il préférable de faire le bien ou de faire le mal ? Malheureusement, la religion des pharisiens les conduisait, me semble-t-il, à faire plus de mal que de bien. Ils jugeaient rapidement, étaient prompts à critiquer, prêts à dévaloriser les autres. Leur manque d'amour pour leur prochain était évident. Ils se fermaient aux besoins urgents du peuple jusqu'à devenir une source de tourment. Malheureusement, de nos jours, certaines églises et certains chrétiens peuvent reproduire ces tendances fâcheuses des pharisiens. Alors examinons-nous chacun devant Dieu pour éviter de tomber dans ces mêmes pièges. Que la pratique de notre foi et notre piété nous pousse plutôt à aimer notre prochain.
Nous remercions Jean-Marc et Alain pour leur participation aujourd'hui. Leurs remarques nous interpellent profondément. Ils seront de retour la prochaine fois pour poursuivre cette étude de l'Évangile de Marc.
Et à présent, nous allons écouter une courte méditation biblique qui s'inspire des psaumes.
Comment être heureux ? Cette question reflète l'aspiration de beaucoup. Et avouons-le, tout ce que nous entreprenons dans la vie est motivé par ce désir de trouver le bonheur. Plusieurs psaumes, d'ailleurs, contiennent la formule « Heureux l'homme qui… » Formule suivie d'une vérité biblique, dont le but est de rendre heureux quiconque la met en pratique.
Ainsi, dans notre nouvelle série de méditations bibliques, nous allons passer ces versets en revue pour, en compagnie de Sébastien, en retenir des leçons essentielles sur le bonheur. Aujourd'hui, nous allons écouter le psaume 1, verset 1, que voici.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
En se promenant d'un étal à l'autre sur la place d'un marché, nous pouvons rencontrer toutes sortes de petits vendeurs, cherchant à vanter les mérites de leurs produits. Malheureusement, certains d'entre eux ne sont pas honnêtes. Et ils voudraient faire croire que les contrefaçons qu'ils vendent sont des marques ou des produits de luxe connus, ou bien que leurs CD et DVD piratés sont authentiques. Il est facile de se faire avoir. Il en est de même pour le bonheur. Beaucoup de voix dans le monde se font entendre. Elles proposent divers chemins tous susceptibles de nous conduire au bonheur. Mais la plupart sont trompeurs, car le bonheur qu'ils offrent n'est qu'un pâle reflet du vrai dont il n'est qu'une contrefaçon. Tant de personnes cherchent à nous influencer et à nous conduire sur des voies dangereuses. Certaines sont sincères, mais combien ignorantes. D'autres, par contre, sont malhonnêtes et mal intentionnées. Selon les psaumes, le vrai bonheur consiste à connaître Dieu et à marcher selon ses voies. Le verset lu tout à l'heure ouvre le livre des psaumes et il nous met en garde contre toute personne, toute influence qui nous suggérerait que l'on peut être vraiment heureux tout en excluant Dieu de notre vie. N'écoutons surtout pas les conseils des méchants. Ces derniers cherchent généralement à nous exploiter ou à nous faire du mal. Ne suivons pas non plus l'exemple de ceux qui refusent d'obéir à Dieu, qui font dans leur vie tout ce qui leur semble bon, car leur chemin les conduira à la catastrophe. Ne tombons pas sous l'influence des incrédules, car ils se moquent de Dieu et désirent précisément nous éloigner de lui. Que faut-il faire alors pour être heureux? Qui écouter? Le psalmiste continue avec ses paroles. Toute la joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Celui qui veut être heureux met la Bible, la parole de Dieu, au centre de sa vie. Car c'est en écoutant l'enseignement de la Bible que nous apprenons à connaître Dieu. Il est notre véritable source de joie et de bonheur. C'est en écoutant et en mettant en pratique son enseignement que nous apprenons à vivre devant lui et avec les autres d'une manière qui contribue à notre bonheur. Tout comme sur la place d'un marché, nous apprenons à discerner parmi les voies des marchands celles qui sont dignes de confiance. De même dans la vie, à travers les nombreuses influences auxquelles nous sommes confrontés, nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu qui nous parle à travers la Bible, car sa voix est véritablement digne de confiance.
Merci Sébastien pour ces beaux conseils. Cher ami, nous vous encourageons à rechercher Dieu et à faire de sa parole votre priorité.
Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.